Voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Donc nous vous rappelons que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission qui donne la parole, bien sûr, aux victimes prioritaires. Alors, nous vous rappelons, chers auditeurs, aussi que les trois dernières semaines de nos émissions, et c'est des émissions qui étaient consacrées aux personnes prises avec les problèmes de la direction de la protection de la jeunesse. Alors, les témoins nous ont raconté l'enfer de la DPJ. Si vous n'êtes pas victime, bien sûr, de cette institution, vous ne pouvez jamais imaginer le degré de la souffrance, le désarroi de ses parents, ses grands-parents, de voir leurs enfants, leurs petits-enfants aussi, confisqués comme une marchandise au nom d'une loi aveugle, d'une justice malmenée, d'une société en échec constamment. Alors, retirer les enfants de leur famille naturelle, dans plusieurs cas pour les livrer en adoption à l'appareil de l'État, c'est une erreur impardonnable. Maintenant, comment investir pour que l'enfant demeure avec le ou les parents biologiques? N'oubliez pas que des centaines et des centaines de parents sont passés devant les tribunaux où ils sont présentement afin de récupérer leurs enfants. Mais leurs efforts sont désespérément en vain. Alors, il y a chez les victimes de la DPJ une déception alarmante, un sentiment de vulnérabilité. L'espoir de récupérer son propre enfant semble chez la majorité de ces demandeurs très mince, voire même inexistant. Et la DPJ, bien sûr, continue de faire de plus en plus de victimes. Pour les trois émissions que nous avons consacré pour le drame qui touche directement la famille québécoise, nous avons reçu des réactions de part et d'autre qui affirment et appuient les dénonciations et le témoignage de tous les invités qui se sont déplacés à ce studio pour nous parler justement de l'impasse, de l'énorme difficulté face à cette institution, dite la direction de la protection de la jeunesse. Protection, destruction, deux voix tout à fait qui s'entrechoquent, qui dit vrai, qui dit faux. D'un côté, les fonctionnaires de l'appareil de l'État qui sont payés pour maintenir une version peu crédible et la famille, le noyau de la société un peu brisé, qui tente de faire entendre sa voix dans une société préoccupée de tout, sauf de l'avenir de l'homme, l'homme avec une grande majuscule. Alors, vous avez sûrement lu les articles du journal de la presse de cette semaine intitulé « Au départ, reconstruire des enfants » ou bien un autre aussi « Apprendre la vie de la DPJ ». À la DPJ, et vous comprenez le paradoxe. Alors, lire de tels titres dans les premières pages d'un journal comme celui de la presse, c'est une vraie honte, une voix qui trahit toute la population et des générations endommagées et réprimées par la DPJ. Des journalistes de la dernière heure, sans principe aucun, qui sont payés pour dire ce qu'on leur dicte, l'ordre vient du haut, comme par exemple « Je veux que vous fassiez l'éloge de la DPJ », point à la ligne. Alors, et l'exécution des mots se mettre justement en marche et les articles se poursuivent, s'écoulent comme de l'eau de robinet. Alors, voilà le danger, si vous voulez, des médias d'aujourd'hui. Leur préoccupation première, c'est d'orienter la pensée de l'individu, de le téléguider à distance, d'influencer ses choix dans tous les domaines, social et politique en premier. Disons ouvertement, le ton de l'esclavage est revenu de plus belle pour nous habiter de nouveau. Alors s'il vous plaît, chers auditeurs, chères auditrices, ne pensez pas que vous êtes libres, libres de vos choix, libres de votre vie. Et d'ailleurs, je me demande sincèrement si nous avons réellement une vie qui a peut-être un sens, parce que la plupart des citoyens ici au Québec survit par défaut. Chères auditrices, chers auditeurs, nous souhaitons reprendre la semaine prochaine avec une émission consacrée à offrir des conseils aux victimes de la DPJ, et à cette occasion, nous allons peut-être tenter d'ouvrir une ligne directe avec nos auditeurs afin de leur permettre de poser leurs questions. Cette semaine, nous revenons à notre combat hebdomadaire contre l'abus de l'autorité, l'abus du pouvoir. Et à cet effet, nous avons avec nous sur le plateau deux nouvelles victimes qui n'ont pas choisi de l'être, mais les circonstances ont voulu autrement, les circonstances de cette société qui favorise le portefeuille sur l'individu et le plus riche sur le plus pauvre. Nous avons ce matin deux nouvelles victimes de la SPVM. Chacun de ces deux victimes est venu chargé d'émotions, de blessures et des blessures profondes, un peu difficiles à effacer. Nous avons Donc, nous vous inviterons d'écouter nos deux invités. Il faut les écouter attentivement. Hein. Et ça sera à vous, chers auditeurs, de juger les coupables s'il y aura lieu. Nous avons pas d'autres juges que vous, vous les citoyens, les vrais décideurs, si vous agissez dans le bon sens. Mes invités sont respectivement Monsieur Jean-César Aplogan, donc c'est quelqu'un qui venant de l'Afrique, puis de la Suisse pour poursuivre des études de troisième cycle à l'Université de Montréal. Vous allez voir vous-même que nombre de personnes se trompent éperdument avant d'arriver au pays des merveilles, le Québec, et que la vérité découverte est tout à fait autre que ces publicités trompeuses qui font ravage derrière nos frontières. La seconde victime, c'est Monsieur Jean-Charles Dufresne, donc un Québécois de souche, mais parce que son statut social est vulnérable, on se permet de lui casser les os et le jeter comme une poubelle dans un parc à Montréal vers 3h du matin, alors qu'il avait besoin de soins en urgence après d'être agressé par deux agents de la SPVM. Cette nouvelle agression, chers auditeurs, ajoute malheureusement des victimes dans la liste de l'abus du pouvoir par nos agents de la SPVM. Pour la victime de ce matin, cette mésaventure devra faire rougir non pas le corps de la police de Montréal, mais aussi les responsables et les politiciens qui veillent sur l'application de la loi pour tous, sur l'avenir de notre sécurité et la sécurité publique. Voilà, donc au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, fuit la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'arabie du pouvoir. Pour participer, chers auditeurs, chères auditrices, à cette émission, vous pouvez nous appeler au 514-273-4302, je répète 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Restez à l'écoute après notre thème musical. Nos deux invités vont témoigner à leur tour une rencontre avec l'abus de l'autorité, le SPVM, de nouveau sur le banc des accusés.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a vient tout juste en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est un œil.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors j'aimerais bien, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Gilles César Aplongon. Oui. Donc vous êtes étudiant en troisième cycle à l'Université de Montréal.
Tout à fait.
Vous êtes un étudiant étranger.
Oui, je suis étudiant étranger.
Merci d'être ici.
Merci.
Bonjour, monsieur Jean-Charles Defresne. Vous êtes un boucher de métier et vous avez accepté de venir témoigner sur ce plateau ce matin. Alors, merci d'être ici.
Ouais, merci.
Je vais commencer directement avec
merci
vous.
Merci à vous et bonjour en même temps.
Merci. Alors, je commence directement avec vous, monsieur Jean-Charles Defresne. Revenons maintenant au 7 décembre 2012, hein, il y a quelques mois. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes un boucher.
Je suis boucher de métier.
De métier. Et oui. Les derniers moments, vous ne travaillez pas ces derniers temps?
Non.
Pourquoi?
Ma santé, une maladie, une chose, je suis en train de régler ça.
Oui, problème de santé. Je suis en train de régler ça. Parfait. Alors, vous êtes né à Montréal.
Oui.
OK. Et vous vivez bien, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Avez-vous des problèmes avec la justice ou quoi?
Non.
Pas de problème, la vie normale, ouais. Tout le courant. Alors, le 7 décembre, qu'est-ce qui s'est passé le 7 décembre?
C'est ça, mais j'avais sorti avec des amis dans un bon...
2012, hein?
Ouais, en 2012, on s'est donné rencontre. Dans le fond, c'est le 6 décembre.
Oui.
Puis on s'est quitté vers les 3 heures du matin. Puis moi, je remontais pour me retourner chez moi.
Vous étiez allé dans un bar?
Oui, dans le centre-ville.
Parce que des amis vous ont invité pour prendre un verre?
Oui.
Quand vous dites prendre un verre, vous avez pris une bière ou vous avez pris quoi?
Oui, j'ai pris une bière.
Vous avez pris une bière, vous avez rigolé ensemble et tout, c'était bien.
C'était bien.
Et vers 3h du matin, vous quittez le bar.
Oui.
C'était à quel bar vous étiez?
Je ne me souviens pas exactement, c'est dans le quartier Guy, c'est dans l'entrée de Sainte-Catherine.
OK. Vous quittez le lieu et vous marchez. Ouais. Pour rentrer chez vous.
Oui, pour rentrer chez moi. J'ai pogné la rue Saint-Hubert au coin de Sainte-Catherine.
Oui.
Puis en tournant, j'ai rencontré un ami de connaissance que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu.
Alors justement, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, devant l'hôtel du gouverneur, sur le trottoir, vous croisez une de vos connaissances.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est ça. Ben, on n'a pas arrêté. On s'est allumé une cigarette puis on s'est mis à parler.
Vous avez fumé une cigarette ensemble?
Oui.
Fumé.
OK. C'est ça. Puis entre-temps, il y a un taxi qui arrivait à l'hôtel des gouverneurs avec un client dedans.
Un taxi qui stationne devant le...
Oui. Okay. Avec les clients. Puis là, on s'est vu que le taxi de monsieur plus le client, ils s'assinaient ensemble. Puis je pense que le jeune homme, il n'avait pas d'un payé de taxi.
Il y avait une dispute qui a éclaté entre le chauffeur?
Entre le chauffeur et le client.
Et le client.
Le portier a sorti de l'hôtel, puis là, il a demandé au taxi qu'est-ce qui se passait. Là, il a dit que ça, il n'y a pas tant pour payer. Il a dit, vous, j'appelle la police. Puis l'autre, il a dit oui. Fait qu'ils ont appelé la police.
Alors, ils ont fait. Mais vous étiez témoin de loin.
Oui.
C'est ça?
Je veux prendre 15-20 pieds de là, à peu près.
20 pieds de là.
On était pas bien loin. Ouais. Fait que là, les policiers sont arrivés sur les lieux.
Là, une voiture de patrouille s'est arrivée sur les lieux.
Ils sont parqués en arrière du taxi. Là, ils sont débarqués. L'un qui s'est dirigé vers le taxi, l'autre aussi s'en allait vers là, mais à un moment donné, ça retournait de bord, puis il nous a vus, moi puis l'ami que je connaissais.
Vous étiez en train de fumer une cigarette.
Ouais, on était en train de jaser, puis là, c'est ça, ils ont dit, en tout cas, la manière qu'ils ont envoyé ça, c'était, tu sais, c'est caliste à Bandac, des caliciers d'ici, vous n'avez pas affaire ici, vous autres, puis papa.
Ils ont crié sur vous, là,
carrément, c'est vraiment le même, fait que là, moi, j'ai comme resté.
Vous n'avez pas aimé la manière que vous adressez la parole?
Non, c'est comme figé, là, j'ai dit, wow, j'étais un peu, non, t'as vraiment fumé une cigarette dehors, je pense qu'on ne dérange pas personne, puis on a. Pour un c'est pas pour nous autres, vous avez été appelés.
3 heures du matin, est-ce qu'il y avait beaucoup de piétons qui passaient?
Non, il n'y a pas rien. Personne. C'était tranquille au bout de ces astres-là.
Alors, lui, juste parce qu'il vous a dit, calissez votre compte ici, c'est ça.
Oui.
Mais il était trop arrogant.
C'est ça, il était arrogant. Puis moi, je suis juste automatiquement, je me suis rouspété. Je lui ai dit, non, pas faire s'en aller, on n'a rien fait de mal. Tout de suite, là, il m'a ramassé par le collègue.
Non, attention, mais vous l'avez dit que vous n'ont pas. C'est ce que vous m'avez dit. Vous n'êtes pas appelé pour nous, mais vous êtes appelé pour le taxi. C'est ça.
C'est ça
que vous avez dit?
Oui, ça, j'ai dit.
Alors, il n'a pas aimé ça, j'imagine.
Non, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est direct là qu'il m'a empoigné par le collet.
Quand tu l'as dit, vous êtes appelé pour le taxi et pas pour nous, il est venu directement vers vous.
Directement, c'est ça qu'il m'a ramassé. Il m'a ramassé par le collet, il m'a fait une genre de prise. Il m'a viré par terre, puis il m'a un coup de pied dans l'œil.
Il vous a donné, la première chose, un coup de pied.
Oui, il m'a
un coup de
pied.
Gauche, hein?
Oui.
Alors, on a des photos ici et tout.
Et après, c'est ça, il m'a pogné le bras, puis comme s'il mettrait une note, mais après en arrière. Mais là,
il a voulu vous menotter les bras.
C'est ça. Ouais. Mais là, en faisant ça, il m'a pogné le bras, puis il a carrément levé jusqu'en au-dessus de la tête. C'est là que là, ça a pété. Là.
Alors, attention, là, il vous a levé le bras fort, oui. Oui,
c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a cassé?
j'ai plus le nom.
C'est l'urimus?
L'urimus, oui, l'urimus.
Oui.
C'est cet os-là qui est aiguisé.
OK. Et vous avez raisé complètement le bras.
Oui, complètement le bras.
Alors, vous criez, vous dites quoi, là?
Ben, j'ai dit, tu viens de me péter le bras, là. Puis là, t'étais tard. Là, il a continué encore pareil. Il a commencé à me brosser. Puis là, ils m'ont mis des saran wrap aux jambes, aux pieds en bas. Ils m'ont mis des notes en arrière. Ils m'ont poigné comme une saucisse, dans le fond.
Mais le problème, même votre bras, parce que vous l'avez dit à un moment donné, vous m'avez cassé le bras.
Oui, j'ai dit, tu m'as cassé le bras. C'est ça, j'ai même dit, moi, t'as levé, je m'allais faire une plainte contre toi. Puis c'est là qu'il a dit, à un moment donné,
vous, il ne s'est pas rendu compte que vraiment, est-ce qu'il a entendu les craquements de l'os?
Je ne sais pas, mais moi, est-ce que les senti, je l'ai bien senti, on n'est pas de connaissance même.
Alors, vous avez perdu connaissance, il faut attention, c'est au moment qu'on vous a pris par le bras cassé.
Oui, par les bras, non, par les pieds, par la saran wrap.
Et l'autre vous a attrapé par le bras cassé.
Mais
quand il vous a soulevé par le bras cassé, là vous avez perdu connaissance.
J'ai perdu connaissance, je me suis dans le char en arrière. C'est ça.
Parce que là, il faut juste qu'on prenne une petite pause de 2 secondes, hein, parce que moi, ça me dépasse. Tout simplement, ça me dépasse. Prenez une petite pause et on revient.
L'autre soir, je suis sorti de mon trou, histoire de voir qu'est-ce qu'on y trouve. Est-ce que j'ai vu? Ça m'a déçu. Les gens que j'aimais sont rendus fous à cause de cette soif étanche, de cette foutue poudre blanche. Et quand tu plonges à plein nez, tu penses que tu planes, mais c'est faux, c'est le saut de l'ange vers le fond du gouffre. J'espère au moins que tu bouffes, car pour l'instant t'as l'arme, un brin d'herbe qui s'étouffe. Et je souffre de voir ça, mon frère, de voir que tu détruis de la sorte, ça m'attriste. Ce que je voudrais, c'est que tu t'en sortes, mais à quel prix? Quand je pense à tout ce que tu m'as pris, avec l'emprise que t'as sur moi, et puis des crises et des cris. Mais ce qui me tue le plus, c'est vraiment que j'y peux rien. J'aurais beau tout donner, mais tu ne feras qu'aller plus loin. Jusqu'à ce que je baisse les bras et sache que je suis rendu là. Tu peux m'en vouloir si tu veux, mais je ne céderai pas.
Voilà, donc bonjour, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous avez entendu le témoin qui est devant moi. Alors, Jean-Charles Defresne. Alors, Jean-Charles, le policier en question, pour vous menotter, il a réussi à vous casser l'humérus. Oui. Votre bras complètement cassé en deux.
Oui.
Et vous criez, et vous demandez qu'il arrête, vous lui informez comme quoi votre bras est cassé. Et avec tout ça, il vous a menotté.
Oui, il a même arrêté.
Et vous a mis des attaches dans le pied.
Oui.
Et c'est au moment qu'il va vous soulever pour vous jeter en arrière de la banquette de la voiture de la patrouille, c'est là que vous perdez connaissance parce qu'il vous a pris par le bras cassé.
Oui.
My God. OK. Vous avez perdu connaissance, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur, après? Quand vous êtes...
Quand j'ai repris conscience, mais c'était lui, il était comme par-dessus moi en arrière, puis lui, pour moi, il pensait peut-être que je dormais pas avant tout, là. J'étais à part du connaissance. Il, avec son pouce, il me faisait comme des
gens... Essayez de vous réanimer, c'est ça?
De me réanimer en mettant des pouces sur le bord de la gorge, puis en arrière de l'oreille, c'est le genre de prise qu'ils ont, les autres, des techniques qu'ils ont, là.
Oui.
Puis dans l'estomac, puis là, je veux pas m'emmener que ça fasse un mal que je me suis réveillé.
Graduellement, vous commencez à ouvrir les yeux.
J'ai commencé à prendre conscience que je savais que j'étais dans le char d'autopatrouille, mais je savais pas que j'étais où et rendu exactement. Là, c'est là, quand il a vu, je me suis réveillé, repris conscience. Il est débarqué par-dessus moi en arrière, il m'a poigné par les pieds.
Quand il a remarqué que vous avez ouvert les yeux, il vous a poigné par les pieds.
C'est ça, il m'a poigné par les pieds, il m'a repitché des hauts du char, justement, que là, j'ai pris.
T'as jeté sur le sol, à l'extérieur du char.
J'ai pris conscience qu'il m'avait emmené dans un autre parc.
Et vous avez pris connaissance que vous n'étiez pas sur le même lieu?
Non, mais j'étais rendu en Corrivigé, dans le parc Corrivigé, ce qu'on appelle ça les blocs de ciment.
Ça, c'était. Excuse-moi. Parce que là, ça c'est des choses qui ont des limites. Là, vous étiez sur le. Sur Saint-Hubert, devant le...
L'hôtel du gouverneur.
Du gouverneur. Là, ils vous ont brisé les murs, vous êtes le bras cassé en deux, ils vous ont menotté, ils vous ont mis des attaches aux pieds, ils vous ont mis dans la voiture, donc vous avez, je comprends, au moment qu'ils vont vous soulever le bras cassé, vous avez perdu connaissance totalement.
Okay. Oui.
Alors, et vous vous réveillez parce que le policier en question était en train de vous faire la réanimer.
Réanimer d'abord.
C'est ça, mais était brusque.
Oui, c'est brusque, c'est ça. C'est
trop
des,
dur.
Des gens de technique qui ont, eux autres, avec leurs pouces qui te mettent en des oreilles, puis dans la gorge, puis ouais, c'est ça, dans l'estomac, tout ça. Là,
et c'est là où vous avez pris connaissance graduellement.
J'ai pris conscience, oui.
Une fois, il vous a vu ouvrir les yeux.
Tout de suite, mais pitchant les autres choses.
Il a pitché dedans. Alors, c'est ça?
Oui.
Alors, vous tombez à l'extérieur et vous remarquez que vous avez remarqué. C'est pas le même lieu.
Non, j'ai bien remarqué, parce que je connais ce lieu-là, là, cette place-là. J'ai bien remarqué dans le Corrivigé, Square, le Corrivigé qu'il appelle.
Ils ont mis là-bas. Il y avait personne autour de vous?
Il y avait personne.
Personne. Ils vous ont laissé là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben là, il m'a débarqué, j'ai mangé une coupe de coups encore.
Il vous a donné un autre coup de pied?
Oui. Là, c'est son partenaire, c'est lui qui l'a. Il a comme mis la main un peu sur l'estomac, il a comme poussé, pas poussé, mais comme arrêté. Il dit là, je pense qu'il y en a assez, lâche-le.
C'est son collègue qui lui a dit?
Son collègue, oui.
Assez.
C'est assez, il y en a assez, lâche-le.
Oui.
Là, ça a resté de même. Ils m'ont défait les liens, ils m'ont enlevé une note, ils ont coupé sa rap, ils m'ont pitché un ticket, puis ils sont partis. Ils m'ont laissé là, dans le Corrivigé.
Alors, ils vous ont laissé là-bas. Et est-ce que vous l'avez informé une seconde fois que vous avez le bras cassé?
Oui, ça j'ai même dit, je vais aller porter plainte contre toi en néantéologie et tout.
Qu'est-ce qu'il a dit?
C'est là qu'il a dit, avec les dossiers que tu as, les affaires, c'est ça.
Ils sont partis.
Je suis même pas inquiète. Il dit, moi, il dit, tu me faisais des yeux menaçants et tout, tu vas m'en sortir. Moi, il dit, toi, tu t'en sortiras pas. Ça a resté de même que M.
Alors, cher auditeur, c'est vraiment le témoignage de M. Charles Defresne, c'est ça?
Oui.
C'est Jean-Charles Defresne. Vous avez bien entendu, donc, une fois, il était pas dans le même lieu. Hein, on parle de 3h du matin. Vers 4h30, c'est ça? 4h30, il se retrouve dans un autre lieu. Donc, ils l'ont tout simplement jeté à l'extérieur d'un carré vigé.
Oui.
Et ils lui donnent une ticket. Un constat d'infraction où il marquait comme quoi le monsieur il avait entravé la circulation des piétons. C'est ça?
Oui.
Alors voilà, je vous parle de. J'ai devant moi le constat d'infraction qui est quand même le matricule ici 5855, l'unité, je pense que c'est 5855, l'unité 121. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et une fois, vous étiez à l'extérieur et les policiers sont partis, vous avez fait quoi, monsieur?
J'ai de peine et de misère, je me sors levé, c'est sûr que j'avais terriblement mal. Là.
Je comprends.
J'ai enlevé mon manteau d'un bord, j'ai vu que là, ça sortait quasiment de la peau. Il n'a pas sorti de la peau, mais je voyais qu'il était rendu de travail.
Oh
fait que là, monsieur, comme c'est le bras un peu sous moi, l'hôpital s'est dit juste à côté.
Vous êtes parti à cette soirée-là, la soirée du 7 décembre, vous êtes parti directement à l'hôpital Saint-Luc.
Oui, de où est-ce qu'il m'a abandonné dans le parc?
J'ai devant moi le rapport de l'urgence qui est marqué justement. Victime de brutalité policière. Ça, c'est le rapport de la même soirée de cette agression.
Oui.
Et vous, pourquoi vous êtes venu jusqu'à présent pour voir le mouvement Action Justice ou voir pour vos droits?
Parce que c'est ça, moi-même, je voulais entreprendre des démarches justement pour. Moi, c'est pas pour la rien, c'est plus pour ce policier-là que c'est pas normal d'agir dans la main avec un citoyen.
Non, mais vous êtes pas venu parce que vous étiez à l'hôpital?
Oui. Ah, c'est pour le début, oui, c'est ça. On m'a référé à vous, mais là, j'étais à l'hôpital jusqu'au 21
c'est
décembre.
Qui vous a référé à nous, monsieur?
C'est un ami, je crois son nom, là, il m'en revient.
C'est
pas
le CAVAC?
Le CAVAC, excuse-moi. Ouais. C'est ça, la CAVAC.
La CAVAC, parce qu'ils m'ont appelé hier aussi, deux fois. Alors, vous êtes. Vous êtes allé à l'hôpital et vous êtes resté combien de temps dans l'hôpital, monsieur?
Ben, à Saint-Luc, je suis pas resté longtemps, là. Je suis pas resté 1 ou 2 ou 3 heures, je sais pas trop.
À l'urgence,
mais ils m'ont dit, ils m'ont transféré d'urgence à Hôtel-Dieu parce que c'était une opération d'urgence, j'avais de besoin. Fait, j'ai été opéré tout de suite, dans l'avant-midi de la journée.
Ouais.
Ils m'ont fait une première opération qui a pas marché d'ailleurs, là. J'ai eu une deuxième opération après. Puis c'est ça, là. Je suis resté à l'hôpital là-bas jusqu'au 21 décembre. Là. Je suis sorti le 21 décembre de l'hôpital.
Vous êtes resté en convalescence?
Oui, je suis en convalescence depuis ce temps-là.
Mais il faut dire aussi, est-ce que votre... Parce que vous êtes devant moi, non. Je vois votre bras, il est handicapé, là.
C'est ça, là, je suis resté handicapé. Là,
parce qu'il y a les tendons qui sont coupés aussi.
Il y a une neige, j'ai plus de neige. J'ai plus de neige qui fait fonctionner la main et les doigts.
Et ton bras, tu ne peux plus fonctionner
ta main? Non, ma main ne fonctionne plus du tout. Moi, je suis gaucher en plus, je ne peux plus écrire, je ne peux plus travailler.
Handicapé.
Pour l'instant, je suis handicapé. Je suis considéré comme handicapé pour l'instant. Là, je vais avoir un plasticien le 19 mars.
Oui. Vous êtes devenu handicapé, monsieur.
Ouais.
Est-ce que vous avez été déposé une plainte à la SQ, là, quoi? Parce que c'est un crime, là.
Oui, je sais. Ben, c'est ça. Là, présentement, je suis tellement en démarche pour ça qu'avec l'Action Justice, tout ça, puis la CAVAC, j'ai demandé de l'aide pour me référer à ces places-là. Ben, je savais pas où me diriger. Parce que côté monétairement, je n'ai pas de situation que je peux payer pour ces affaires-là, payer des avocats.
Ouais. Alors, juste pour vous rassurer, nous, on avons écrit au ministre de la Sécurité publique. On avait aussi informé le directeur de Marc Parrain de la police de la ville de Montréal. On a le protecteur des citoyens. On a écrit partout. On a dit en déontologie policière, on a fait la plainte. Et on attend aussi de déposer une plainte à la SQ aussi, la sécurité publique. La sécurité publique à propos de votre cas. Alors, vous, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, là? Vous êtes ici, là. Pourquoi vous venez ici, là? Vous parlez aux citoyens qui nous écoutent ce matin. Vous voulez dire quoi?
Pour dénoncer des affaires comme ça. Ouais. Je trouve, pour leur travail qu'ils ont, c'est un policier qui. Ils ont une éthique à suivre, des choses. Il me semble que c'est pas l'éthique à suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, tu peux pas arrêter quelqu'un qui a rien fait sur la rue comme ça, puis arracher un bras de main, puis l'abandonner en plus blessé dans un autre parc, leur donner encore des coups de pied, puis le laisser là.
Ça n'a pas de sens.
Et quoi qu'il n'y a pas de sens qui ne marche pas dans cette société-là, quand même, que les policiers agissent de même. Dans le centre-ville, les policiers sont terriblement, en tout cas, pour ce monde.
Mais dans votre cas, parce que chacun, il a un cas, mais dans votre cas, vraiment, ton histoire, excusez-moi, votre histoire, vraiment, ça donne froid au dos, tout simplement. Alors, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez entendu, vous avez écouté le témoignage de Jean-Charles Dufresne. Vous avez vu comment les policiers ont agi avec lui et comment, malheureusement, la société ne le protège pas. Et vous allez voir toutes les démarches qu'on va tenter de faire, finalement, par la fin. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais on va faire le nécessaire. Alors, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale et peut-être on va passer à la deuxième victime de ce matin. Monsieur, c'était...
Gilles César.
Gilles César.
À Plogan.
À Plogan. Merci.
Qui ont fait de moi qui je suis à présent.
Voilà, donc bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. On vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, je passerai, nous avons entendu la version, le témoignage de Jean-Charles Dufresne, parce qu'il a dit aux policiers, vous êtes appelé pour le taxi, pas pour moi. Alors, le monsieur, il a présentement devant moi, est devenu handicapé. Quelle brutalité, quelle... Ouais, c'est vraiment sauvage. Alors, je passe directement... Bonjour, monsieur Gilles César d'Aplong. Alors, votre histoire aussi, je sais qu'il y a une mauvaise rencontre, mésaventure avec le SPVM, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes d'origine... Vous êtes d'origine?
Je suis d'origine béninoise. Je viens du Bénin.
Vous êtes de Bénin.
Oui,
vous êtes arrivé ici comme étudiant étranger?
Oui, je suis venu ici depuis la Suisse comme étudiant étranger.
Oui.
Et donc, je suis venu faire...
Vous êtes faire ici quoi, monsieur?
Je suis venu faire un doctorat.
Un doctorat troisième cycle?
Troisième cycle.
Sur quel sujet?
Mon sujet s'intitule la traite négrière et l'esclavage.
La traite des clients et l'esclavage?
Et l'esclavage.
Oui.
Et j'aimerais étudier le rôle et l'implication des banques occidentales,
oui,
et surtout européennes,
oui,
dans la traite négrière et l'esclavage.
Voilà. Excellent. Mais vous, avant de venir, avant de parler ici de votre arrivée, puis ce qui s'est passé ici au Québec, vous êtes arrivé quand, monsieur, ici?
Je suis arrivé ici le 16 octobre 2012.
Octobre, vous êtes arrivé au mois d'octobre.
Ouais.
Mais avant d'arriver ici, quelle est l'information que vous avez eue sur le Québec, sur le Canada, avant d'arriver?
En fait, quand j'étais en Suisse, donc...
Vous étiez en Suisse, vous avez suivi des cours en Suisse aussi.
En Suisse, ouais, je rappelle tout de suite aux auditeurs, aux auditrices, qu'en Suisse, j'étais journaliste.
Vous étiez journaliste aussi en Suisse?
J'étais journaliste en Suisse. Et j'avais étudié aussi la banque. Donc, j'ai travaillé comme journaliste en Suisse. Et quand j'ai postulé pour venir étudier au Canada, j'avais une image vraiment fantastique, super du Canada.
Sur le Québec. Quelle image?
Sur le Québec.
Les droits de la personne.
C'est une image de pays de liberté. C'est une image de pays de droits de l'homme. C'est
la
une
justice,
image de justice. C'est une image...
C'est plus comme l'Afrique, c'est ça?
C'est pas du tout l'Afrique. Il n'a rien à voir avec...
L'idée que vous avez eue, c'était vraiment...
C'était cette idée que
j'ai eue. J'imagine que vous étiez content de venir.
Content de venir et j'ai été réconforté dans ma joie, donc dans cette justice-là. Le jour de mon arrivée, le 15 octobre 2012, le 16 octobre 2012, à l'aéroport de
Dorval.
Montréal.
Oui. Oui.
Et quand j'étais arrivé, l'accueil qui m'a été réservé à Montréal ici était tellement super que je n'en ai jamais trouvé nulle part ailleurs.
Alors là, on oublie l'aéroport, Là, on rentre dans le bain. On va mettre le pain dans le champ.
Oui.
Alors, vous êtes remontant derrière. Vous arrivez ici et l'université, la résidence de Montréal, il n'y avait pas de place dans la résidence parce que vous êtes quand même troisième cycle, vous n'avez pas l'âge de 20 ans.
Je
comprends. Oui. Et donc, mais l'université, par défaut de place, il n'y a pas de place, ils ont mis avec des jeunes de premier cycle dans la résidence, c'est ça?
Tout à fait.
Okay.
J'avais pourtant quand même réservé la chambre à la résidence depuis la Suisse où j'habitais.
Ah, vous avez déjà?
J'avais déjà fait la réservation depuis 2 ou 3 mois.
Oui, mais ce n'était pas le cas.
Il n'a plus de place.
Oui. Alors, c'est pas grave.
Voilà.
Vous arrivez, vous habitez dans la résidence universitaire, mais malheureusement avec des jeunes. C'est pas de votre niveau, votre âge, c'est vraiment tout à fait contraire.
Oui.
Alors, dans cette résidence, malheureusement, il éclate un conflit entre ces jeunes-là. Et c'est normal, ils ont toute une vie à eux. Hein, c'est des jeunes qui aiment ça, faire la fête. Alors que vous avez troisième cycle, la réflexion elle est un peu plus profonde et tout. Vous avez un rythme de vie un petit peu plus tranquille et tout. Alors, tu peux nous dire en 2 mots, c'était quoi le conflit que vous aviez avec ces jeunes-là de premier cycle déjà?
Au fait, quand je suis arrivé, j'étais arrivé le premier jour, donc je venais à peine de l'aéroport, je déposais ma valise dans la chambre est dans un appartement où on m'a mis, et 2 jeunes sont venus me voir, donc 2 jeunes de l'appartement, et ils ont à peu près 18-19 ans, je n'imagine.
19 ans déjà, oui, alors vous avez 50 ans.
Moi, j'ai quand même plus de, j'ai 50 ans déjà passé, et puis ils viennent me voir me faire une proposition d'échange de chambre.
Ils vont demandé de changer de chambre.
Ouais. Parce qu'ils voulaient que leurs copains, leurs amis,
à côté d'eux.
Viennent habiter dans l'appartement avec eux.
Oui.
Et puis, moi, j'ai dit, je peux rien faire sans l'accord de l'université.
Exactement, vous avez refusé, simplement.
Je peux rien faire aussi contre...
Alors, parce que vous avez, monsieur, parce que vous avez refusé, oui. Le climat est devenu un petit peu
Oui, tendu. Tout à fait. Le climat est devenu tout tendu. Oui. Il a des chicaneries de leur part, oui. Donc des accusations fantaisistes, superflues, oui. C'est-à-dire des petites menaces. Quoi. Donc,
de la part de
ces jeunes-là.
Mais à un moment donné, un jour, vous êtes arrivé devant chez vous, dans votre appartement, dans la résidence, et vous découvrez comme ça, il y avait des affaires, des objets qui s'étaient déposés devant votre porte.
Voilà. Alors, j'étais en week-end chez des amis que j'ai rencontrés aussi, ici, et puis je viens du week-end, je trouve un petit bol de...
Et alors, monsieur Aplomb, il nous amène le bol devant lui.
Ouais, je trouve ça avec...
Un bol avec du pain.
Avec du pain.
Devant la porte.
Devant ma porte.
Devant ta
porte. Un couteau dessus. Avec des, je ne sais pas ici au Canada comment on appelle ça, mais c'est des petites notes.
Et avec des notes sur la porte.
Des notes sur la porte.
Alors voilà.
Alors, et je trouve c'est...
Et puis ils ont marqué on vole de la nourriture,
oui.
C'est la moindre chose. Et après ça, ils ont dit aussi comme quoi, là il y avait une insulte aussi, j'imagine.
Oui.
Voulez-vous nous dire? Alors il dit, fils de pute,
oui.
Jules César, Aplogon, tu es sale, nègre, africain, vieux. Enfin, je n'ai pas envie de finir, mais ils ont écrit une note comme ça. Là, je trouvais cette note-là sur la porte.
Sur la porte. Avec,
alors, vous avez fait quoi, monsieur? C'était à quelle heure vous avez trouvé?
J'ai trouvé ça vers 19h à peu 19h. Près.
Et vous allez voir les gens?
Et j'ai été voir un jeune homme.
Pourquoi vous êtes voleur, ce jeune-là? Parce que vous avez douté que c'est lui?
Parce que le conflit ou le problème de pain qui était arrivé, donc,
oui.
En fait, le vendredi avant de partir en week-end,
oui.
Je voulais faire la cuisine. Parce
oui.
que nous utilisons...
Une cuisine commune,
nous utilisons une cuisine commune.
Oui.
Et je voulais utiliser la poêle, et il avait ce bout de pain dans la poêle. Donc,
il avait du pain sur le poêle.
Dans
ouais.
la poêle.
Donc, alors, vous avez juste ôté le pain qui était sur la...
Dans la poêle,
ouais,
et je l'ai juste... rangé
de côté parce que vous voulez utiliser la poêle.
La poêle.
Ok.
Et il est venu.
Lui, il a observé ça, il n'a pas aimé ça.
Voilà, il avait ses copains qui dormaient là.
Et vous avez demandé pourquoi vous avez levé le pain.
J'ai dit, c'est juste pour ranger ce pain et puis l'utiliser.
C'est juste ça.
Voilà. C'est juste ça.
Voilà.
Alors, je vais le voir pour lui dire, mais je crois que.
C'est vous qui avez mis le pain devant ma porte.
Devant ma porte. Il me dit, non, c'est pas lui que. Il m'indique plutôt. Une colocataire
qui a mis ça,
qui est okay. à côté.
Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur?
Alors, tout de suite, j'ai été voir la colocataire, je lui ai demandé, elle s'appelle Aurélie, j'ai dit, mais Aurélie, c'est toi qui as mis ce pain.
Et les mots, surtout les mots, là,
les mots injustes, sale nègre, des
conneries. Ça, c'est pas grave, on a lu.
C'est
là,
toi qui as mis ça, et puis elle m'a dit, oui, c'est moi qui ai mis ça. J'ai mis ça, c'est moi qui ai mis ça.
Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit, monsieur? Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Alors, tout de suite,
textuellement,
je lui ai dit, mais tu es hypocrite.
Ouais.
Je viens de rentrer, tu m'as salué, tu m'as demandé, tu as sympathisé avec moi, alors que tu savais que tu avais déjà fait des bêtises devant ma porte. C'est pas sympa de ta part.
C'est pas faisable.
C'est pas faisable. Comment tu peux faire? Et en quoi cela te concerne? Est-ce que c'est ton père? En quoi cela concerne? Alors, elle me dit, oui, je l'ai fait parce que tu es un sale nègre. Et je le répète,
devant
tout le monde, tu es un sale nègre.
Qu'est-ce que vous avez répondu, monsieur?
Alors là, je lui ai dit, écoute, tu as de la chance que nous sommes au Québec.
Oui.
Si c'était en Afrique chez moi,
oui.
l'âge que j'ai par rapport à ton âge de 19 ans,
oui.
c'est mon fils qui allait te donner des fessées. Parce que ça ne se fait pas.
Ouais,
ça ne se fait pas, mais ce que tu as fait dans ma tradition africaine,
ouais.
et je crois que il n'y a pas seulement que tradition africaine, c'est dans la morale pour tout le monde,
exactement.
Pour le respect de tout le monde,
ouais.
on ne peut pas se comporter comme ça avec quelqu'un qui est âgé de 50 ans.
Ben oui, c'est l'âge de son père. Oui.
Voilà, j'ai l'âge de ton père et tu n'as pas à te comporter.
Devrais pas comporter comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Est-ce que vous avez, à part les mots que vous avez dit, est-ce que vous avez levé le ton sur elle?
Non, mais tout d'un coup, collègues, ses camarades sont descendus et elle a commencé par crier, les injures ont commencé par pleuvoir de sa bouche.
Ouais.
Et là, ça m'a mis hors de moi. J'ai dit, si tu continues comme ça,
ouais.
alors je vais descendre tout de suite pour aller à la réception de la...
Je vais faire une plainte contre vous.
Contre vous.
Mais vous devrez
à la direction. Et puis, c'est là où, effectivement, les injures, le ton a monté. Et
oui,
puis, j'ai dit, ben, si tu trouves que moi, je suis sale nègre, toi, tu es quoi? Tu es fille de qui? Et oui. tu n'es que aussi une Française.
Oui, mais c'est, enfin, il y avait donc le conflit oui. verbal.
Oui, il avait un conflit verbal qui n'a pas du tout été physique. Hein,
non, il n'y a que du verbal. Et après ça, vous rentrez chez vous dans la chambre?
Après tout, quand ça s'est passé, je suis tout de suite descendu. J'ai été remettre les choses dans ma chambre.
Oui.
Et puis, je suis descendu à la réception de la résidence.
Pour déposer une plainte.
Mais par contre,
elle était allée au poste de police.
Et elle est allée au poste de police.
Pour déposer une plainte contre vous.
Pour déposer.
Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Alors là, on part d'une. Normalement, dans le sens jargon policier, c'est une plainte croisée.
Voilà.
Est-ce que c'était le cas?
Non, ce n'est pas du tout le cas.
C'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé? Les policiers sont venus?
Alors, j'étais à la réception en train d'expliquer, de laisser une note à la direction de la résidence. Et tout d'un coup, je vois deux policiers qui
sont arrivés.
Ils sont arrivés.
Urgence.
Et accompagnés des autres colocataires qui accompagnaient la fille là-bas.
Est-ce que les policiers ils ont pris de côté pour vous prendre votre version?
Non.
En aucun moment.
Rien.
Aucune version.
Dès qu'ils sont arrivés, la fille a dit
celui.
C'est lui.
Et après celui
arrêtez-le. Et les policiers, tout de suite, sans même demander mes pièces d'identité, sans même demander mon nom, ils ne savaient même
pas. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous êtes en état d'arrestation?
Non, ils me disent, écoutez, donnez vos mains et puis...
ils vous ont menotté. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous avez le droit d'avoir un avocat?
Rien. Ils m'ont dit... Ils m'ont pris
ça, c'est le Québec, monsieur.
Vous êtes au Québec, monsieur.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Et puis, ils m'ont menotté et sans rien demander. On n'a même pas parlé. Ils ne m'ont même pas posé de questions. Comment tu te...
Ils vous ont menotté, mais ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas pris votre version.
Même pas mon nom.
Monsieur Plon, s'il vous plaît, une fois, ils vous ont menotté.
Oui.
Ils vous ont amené où, monsieur?
Alors, dès qu'ils m'ont menotté, ils m'ont amené dans une station de police qui est juste à côté de la résidence de René Lévesque, Est.
Oui.
Donc, c'est la résidence UQAM. Et le poste de police est le poste 21.
Oui.
Et là, un parking de voitures de policiers qui sont de cette station-là.
Bon.
Ils m'ont amené dans le parking, les menottes dedans, derrière.
Vous restez longtemps dans la voiture?
Et ils m'ont jeté dans la voiture, dans leur voiture. Il faisait froid et ils ouvrent les portières et j'étais dedans.
Ça ne dérange personne.
Enfin,
mais après ça, vous étiez quand même détenu dans une cellule, c'est ça?
Oui, alors là, de là, j'ai attendu au moins 40 minutes dans la voiture, dans le froid, les portières de la voiture ouvertes.
Ouais.
Et là, ils viennent, ils m'embarquent directement. Je ne sais pas où c'est. Ça doit,
ils ont transféré dans une autre place.
Voilà, dans une
autre
place.
Mais le plus important, c'était dans une cellule.
Dans une cellule.
Et vous étiez. Est-ce qu'à un moment donné, les policiers sont venus voir pour prendre votre version?
Non.
En aucun moment.
Okay.
Après ça, vous êtes transféré devant le tribunal?
Alors.
Vous êtes resté combien dans le.
Dans cette cellule, je suis resté toute la nuit. Donc,
vous avez passé la nuit?
Oui, ça s'est passé le lundi 19 novembre.
Oui.
J'y ai passé toute la nuit. Et personne n'est venu me demander ma version,
quoi que ce soit.
Voilà,
jusqu'à vous y aller directement.
Voilà, et le lendemain.
Est-ce qu'ils vous ont donné le droit d'appeler un avocat?
Oui, ils m'ont dit que je pouvais appeler un avocat, donc dans la cellule, je pouvais appeler un avocat.
Okay.
Ils ont appelé un avocat, l'avocat m'a parlé au téléphone.
Mmh.
La seule chose qu'elle m'a dite, vous devez garder le silence.
Voilà,
voilà.
Quel silence? Mais il n'y a personne qui
peut
parler.
Je ne sais pas de quoi je suis accusé. Et
finalement, vous allez devant la cour.
Alors, le lendemain, donc j'ai passé la nuit, le lendemain, on m'amène dans un fourgon à la cour.
Oui, oui.
Et puis voilà, j'étais arrivé à la cour vers 9h.
Oui.
Et c'était à 17h que j'ai été.
Oui. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était un étudiant de troisième cycle? Vous avez. C'est-à-dire, ce qui vous dérange, on comprend votre histoire.
Oui.
Mais ce que vous m'avez dit, comme quoi, ce qui vous dérange le plus, pourquoi les policiers, ils n'ont pas pris votre version?
Écoutez, c'est quelque chose que je me pose toujours.
Pourquoi ils ont pu éviter tout ce qui vous arrive présentement?
Mais, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, même au niveau de mes études. Mes
je comprends, parce que vous devrez aller devant la cour.
Devant la cour, j'y étais le 19 février dernier.
C'est quoi les chefs d'accusation?
Alors, les chefs d'accusation, on dit que voix de fait.
Et que, ils ont dit voix de fait?
Voix de fait.
Mais est-ce que vous avez levé la main ou touché?
Il n'y a pas, je n'ai pas levé de main.
Vous n'avez en aucun moment levé la main?
Aucun moment.
Parce que madame, elle a dit peut-être qu'il m'a poussé ou n'importe quoi.
Non.
Non, je dis, parce que donc, la version de madame, ça a passé.
Voilà.
Et votre version, vous...
Moi, je n'ai pas été écouté, ni par la police, ni par la cour, quand j'ai été à la cour, devant la cour. Ouais. La seule chose que la cour m'a dit, on m'a remis ce papier et avec des conditions que je dois remplir.
Il fallait changer de place.
Il fallait ne pas boire de l'alcool ni prendre de la drogue.
Est-ce que vous prenez de la drogue?
Je n'ai jamais fumé dans ma vie.
Est-ce que vous prenez de l'alcool aussi?
C'est très rare.
Un verre, oui. Voilà. Monsieur Aplogon, je veux juste savoir, c'est quand même troublant ce qu'on entend comme ça. Ça veut dire, vous étiez allé au poste de police déposer une plainte contre eux, est-ce que pensez-vous que la police vont agir, ils vont menotter la dame?
Mais non, je n'y crois pas vraiment.
Voilà,
c'est
ça la réponse.
Je crois pas.
Bien, ouais. Alors, sur ça, on va juste prendre une petite pause musicale et on va revenir avec mes deux invités.
Se parlerait plus, que sur notre belle parade un jour il n'aurait plus, que tu verrais plus en moi cet homme qui t'a plu autrefois, et pour m'en parler j'aurais même pu le voir.
Je me suis dit je serais mieux sans toi, que ça ne marcherait pas, faudrait mieux que l'on arrête là. Je me rends seule comme elle est compagnie, je l'ai toujours pensé, j'ai besoin que tu comprennes que
alors voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors je reviens avec mon premier témoin, Monsieur Jean-Charles Dufresne. Monsieur Jean-Charles Dufresne, vous, si vous résumez votre histoire, si j'ai bien compris, le corriger si je me trompe, parce que vous avez dit aux policiers comme quoi, vous êtes appelé pour le taxi, monsieur, vous n'êtes pas appelé pour nous. Alors, vous n'avez pas d'affaires à nous. C'est ça?
C'est vrai, c'est vrai, dans le fond. La minute,
et à la minute que vous l'avez dit ça, directement...
L'hostilité a déclenché. C'est garoché direct sous moi tout de suite. Il m'a viré en envers à terre, comme vous dites, il a commencé à me frapper.
Il a reçu un violent coup de pied sur le l'œil. Alors, l'œil, il est vraiment... C'était tout bleu, on a des photos. Après ça, le plus important, le plus honteux... C'est vraiment de briser.
Le geste qu'il a posé, là, il l'a posé pour le briser parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que le geste qu'il a fait. Là,
Non, peut-être que c'était la brutalité.
C'est moi qui avais son bras dans sa main. Quand je l'ai vu faire, la manière qu'il l'a fait, il l'a fait pour le briser. Il l'a pas fait pour mettre les nanottes. Là, c'est parce que pour mettre les nanottes, il met le bras en arrière.
Mais quand même, c'est pour briser les murs, là, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un doigt, ça. C'est pas un doigt. C'est vraiment, il a utilisé.
Une force excessive.
Parce qu'arriver à briser les murs, là, c'est le bras, là, le briser en deux, couper les tendons. Monsieur, il est devant moi, il est handicapé. Je vous dis, là, sincèrement, il est handicapé. C'est une vraie honte pour l'SPVM, une vraie honte. Et encore pire, ils n'ont pas amené, chers auditeurs, pour avoir des soins à l'hôpital. Ils l'ont laissé dans un autre lieu, à 3h, imaginez-vous, à 4h du matin, ou 4h30 du matin, dans un parc. Tout seul. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire tout ça là?
C'est inconcevable. C'est un policier ne peut faire ça à un citoyen, c'est impossible. Ouais. C'est inconcevable. C'est pour ça que j'ai pris les démarches pour ça, mais je trouve ça c'est inconcevable. Dans quelle justice qu'on est? Il existe qu'on a une justice au Québec ou dans notre pays. La justice est où là-dedans?
Mais est-ce que vous avez hâte de rencontrer ce policier en face de vous pour lui dire qu'est-ce qu'il a fait? Pour se rendre compte de ce qu'il a fait? Vous êtes devenu handicapé. Ouais. Savez-vous c'est quoi handicapé à votre âge?
Je trouve pas drôle, en doute, mais lève avec ça, mais à tous les matins, il me relève.
Est-ce que vous méritez tout ça, monsieur? Parce que vous avez dit.
Non, je ne la méritais pas.
C'est parce que vous avez dit à un policier, vous n'êtes pas appelé pour nous, monsieur?
Non.
Alors, c'est ça, vous méritez ça, monsieur?
Non, pas du tout. Moi, j'espère que
justice soit faite.
Que justice soit faite de ce côté-là aussi.
Monsieur Jules César, à Plongon. Vous avez vécu en Suisse. Pensez-vous que les agents de paix en Suisse, ils ont pu réagir de cette manière-là?
Je ne comprends pas leur comportement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai vécu ici.
Mais vous avez vécu en Suisse.
Oui.
Est-ce que vous avez observé quelque chose qui est semblable à ça?
Non, je peux dire quand même que tout n'est pas parfait, mais en Suisse, la première des choses qu'un policier normal aurait fait, c'est d'abord d'écouter...
Écouter les deux témoins.
Les deux plaignants.
Parce qu'il y a deux plaignants.
Il n'y a même pas eu, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas que la police ne peut permettre d'agir de la sorte.
Ouais.
Et sans écouter en écoutant une version, prenant parti pour une version, arrêter quelqu'un, le jeter en prison, et la justice québécoise aussi, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a même pas entendu ma version.
Mais tout à fait, mais c'est, vous savez, c'est quand vous. Parce que les policiers, ce qu'ils font, ils vont vous pousser dans l'appareil de l'État, là, c'est un grand appareil, voilà, ils vont vous broyer. C'est quoi broyer, là? C'est ça ce qui arrive. Mais est-ce que vous regrettez d'avoir venu ici suivre?
Je regrette beaucoup. Je regrette énormément. Psychologiquement, je trouve même que.
C'est traumatisant.
C'est traumatisant.
Est-ce que vous arrivez, pour le moment, vous arrivez à suivre, vous faire vos recherches et faire vos.
Non, le fait d'avoir été arrêté. À partir de l'événement, j'avais déjà rendez-vous avec mon directeur de thèse.
Oui.
Et cela, j'étais en prison.
Est-ce que vous avez fait de la prison avant?
Non, j'ai pas fait de la prison. J'ai été jamais accusé de quoi que ce soit dans ma vie.
Oui.
Je suis quelqu'un qui mène une vie très calme.
Vous êtes un chercheur. Vous avez même l'Université de Montréal. Ils vous ont proposé un poste de chargé de cours.
Chargé de cours. Donc, on m'a proposé un poste d'assistant professeur, donc chargé de cours. Mais vu les événements que j'ai vécu ici à Montréal, traumatisant, en détention plutôt, je n'ai pas pu assister à cette rencontre avec mon professeur, avec mon directeur, et ça m'a donné des conséquences.
Mais c'est pas juste énormes. Ça, c'est l'événement comme tel aussi, c'est comme traumatisant, c'est sûr et certain, ce sera énormément difficile pour reprendre des fils.
Surtout que c'était une période des années, j'avais beaucoup de responsabilités en ce moment, j'avais des étudiants que je devais encadrer, j'avais des étudiants que je devais corriger des copies, je n'ai rien pu faire.
Si vous me permettez, monsieur Gilles César à Plongon, si, je ne sais pas, on dit si conditionnel, si par exemple, à votre place, à ce lieu, quand les policiers sont arrivés, s'ils ont vu un blanc, pensez-vous que les choses ont changé?
Je crois que tout à fait juste. Avec un blanc, ils ne se comporteront pas
comme ça. Ils ne vont pas se comporter comme ça, parce que vous êtes noir.
Voilà, et avec ça, malgré que ils ont fouillé, je me demande toujours, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec ces policiers, qu'ils ont fouillé dans mon sac, dans mon porte-monnaie, et qu'ils ont vu ma carte d'étudiant. Donc, et c'est bien écrit dessus, doctorant dessus, il devait quand même se dire...
Au moins on peut l'écouter, là. Peut-être il a une version à nous donner.
Voilà, rien, personne ne sait.
C'est eux les juges, c'est eux qui...
C'est eux qui ont décidé, c'est eux qui disent que oui, il faut
l'envoyer. Ça, c'est des policiers qui sont secondaire 2, secondaire 3 ou secondaire 4, là.
Voilà, même j'ai été demander leur nom, comment on appelle, leur nom et leur numéro matricule. On me dit non, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas du tout à s'intéresser
peut-être
à ça.
Peut-être en Afrique, ils ne vont pas agir comme ça, j'imagine aussi.
Non.
Il y a certaines limites. En Afrique, avec des gens qui sont intellectuels et des gens qui ont un certain niveau, je pense que les policiers vont faire attention.
Beaucoup attention. Et je dirais même que.
Mais si malheureusement, vous êtes victime de votre couleur, c'est ça.
Ici, je suis victime de ma couleur.
De ma couleur. Oui. C'est ça.
C'est ça. Je suis victime de ma couleur. De peau.
C'est vraiment. Écoutez là, moi j'ai. Aujourd'hui aussi, j'ai aussi mon, comment on dit, ma claque. Je reviens avec vous, Jean-Charles. Est-ce que vous avez baissé les bras aujourd'hui? Vous allez abandonner la partie ou bien vous allez continuer vraiment à poursuivre ce policier qui a fait ça?
Oh, je vais poursuivre jusqu'à. Je vais le poursuivre jusqu'à temps qu'il y ait des représailles de ça.
Vous savez, vous pouvez aller. Vous pouvez aller
comme ça. Hein? Tu peux pas agir comme ça, c'est citoyen de même. Tu peux pas agir comme ça, c'est une personne de même. Qu'on s'imprend une personne juste pour. C'est carrément pour rien, dans le fond. C'est carrément pour.
Mais casser le bras et vous soulever du bras qui est cassé au point de perdre connaissance et vous se réveiller, vous êtes trouvé dans une autre place, non, complètement loin.
Ça, c'est incompréhensible.
4h du matin.
C'est incompréhensible.
Jeté. Et vous avez même informé le policier. Vous avez même informé le policier comme quoi vous avez le bras cassé. Brisé, monsieur, là. Ils s'en fichaient carrément.
Ils s'en fichaient carrément.
Et vous voyez aussi perdre conscience. Hein? Oui. Quelqu'un qui perd connaissance, là.
Ben, j'étais à connaissance dans l'auto en arrière.
Perdre connaissance, ça veut dire quand même il y a un degré aussi là, de douleur qui a causé ça. Et avec tout ça, il n'y a rien qui a fonctionné. Avez-vous un dernier mot à nous dire aujourd'hui, M. Aplomb?
Oui, mon dernier mot, c'est que vos auditeurs et auditrices qui nous écoutent comprennent l'ampleur de ce qu'on nous vante, de ce qu'on nous vante quand on est à l'extérieur.
Voilà.
Quand surtout, moi, je ne viens pas de l'Afrique directement. Je viens de la Suisse, j'y ai vécu, j'ai eu quand même une carrière professionnelle là-bas. J'y ai vécu plus de 30 ans dans ce pays.
Oui.
Donc, je ne suis pas nouveau dans le monde occidental. Et ça me touche que des policiers ici au Québec puissent se comporter comme si on était dans un pays d'apartheid.
Oui, exactement. Ouais,
et ça, c'est choquant. Le mot que j'ai à dire, c'est que les auditeurs comprennent que si cela ne vous est jamais arrivé, vous n'allez pas pouvoir être témoin et témoigner. Il faut vivre ça.
Parce que les gens ils savent pas. On leur parle, ils comprennent pas. Alors il faut le vivre. Il faut que tu lui mets la main dans le feu pour sentir la chaleur du feu. Monsieur Henri, vous voulez dire quelque chose?
Non, rapidement, s'il vous plaît. Je comprends pas pourquoi que les policiers ont dompé, excusez-moi, dans un parc. Quand que tu sais qu'il y a une loi que tu n'as pas le droit d'être dans un parc après 11 heures du soir, il aurait pu arrêter ce monsieur-là, justement, encore.
Ils ont mis dans un parc alors qu'il n'a pas le droit d'être
dans
un parc.
Non, la loi, là.
Mais vous ne les débarrassez de lui, M. Barnabé.
Oui, mais c'est justement, c'est une infraction, ça, là. De lui être dans un parc.
Mais c'est les policiers qui l'ont mis là, qu'ils ont
jugé. Oui, mais là, écoute, c'est une infraction. Moi, je l'aurais arrêté, puis j'aurais pas le droit dans le parc, puis avoir dans le.
C'est l'incompréhensible. Dernier mot, monsieur.
Parce que je souhaite pas à personne qu'est-ce qui m'est arrivé. Oui. C'est vraiment terrible, pareil.
Okay, parfait. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Alors je remercie rapidement nos deux invités d'avoir accepté de dénoncer publiquement l'abus de l'autorité, l'abus du pouvoir. Nous avons de notre côté informé le ministre de la Sécurité publique et le directeur de la SPVM, Marc Parra, ainsi que le protecteur du citoyen. Une plainte était aussi logée au comité de déontologie policière, mais vous savez que cette dernière, pour nous, représente le grand bordel. Alors on le fait pour avoir des preuves contre cette institution. Merci à notre cher Louis-Joseph Alfandi, notre technicien de son qui va nous quitter, malheureusement, probablement pour un retour aux études. Alors, on dit merci, un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, M. Louis-Joseph Alfandi, pour le travail qu'il a fait avec nous, bénévole. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe à moi. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Le sujet sera probablement comment apporter de l'aide aux victimes de la DPJ. C'est tout pour cette semaine. Passez une belle semaine et au revoir.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôt personnels et d'entreprise au Bureau Comptable Cola. Rendez-vous à un de leurs 9 points de service dans la grande région de Montréal et ses environs. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les Bureaux Comptables Cola au 514-374-0137.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde mondial.